Bonjour Vernis Rouge.
Bonjour.
Je m'appelle Tom, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Merci.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prête?
Oui, j'ai la pression là.
Vernis, ta date de naissance?
1er décembre 1998.
La ville où tu as grandi?
Beyrouth.
L'endroit préféré de ton enfance?
J'en ai pas.
L'âge auquel tu as commencé la musique?
5 ans.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Barbara.
Ton premier succès?
La boule noire.
Le nom d'un titre que tu n'as jamais sorti?
Je te laisserai pas partir.
Ton feat de rêve?
J'en ai pas.
On passe en stase. Vernis Rouge, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé et enfin dans ton futur. Est-ce que t'aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
J'en rêverais.
Pourquoi?
Pour profiter des gens que j'aime, je crois, surtout.
Surtout, oui.
Ouais.
Ta famille?
Ma famille, mes amis, ouais, surtout ma famille. Je crois que c'est ce qui m'angoisse le plus, donc ce serait un sacré pouvoir.
C'est quoi l'angoisse exactement?
C'est de perdre les gens qu'on aime. C'est, je crois, même de manière assez générale, tout ce qui est éphémère. C'est ce qui est beau dans la musique, c'est que c'est intemporel.
Alors, je crois que j'ai besoin de réapprendre à compter avec toi. Tu viens de sortir un EP qui s'appelle Intro, que tu qualifies de premier EP sur tes réseaux sociaux. Pourtant, hier, j'étais persuadé d'écouter un projet qui s'appelait Corps Sauvage et un autre qui se nommait Femme Nue. Alors, c'est l'intro de quoi, justement?
C'est peut-être l'intro d'une honnêteté que j'ai réussi à trouver. Et je crois que c'est le plus dur dans la vie comme dans la musique. La musique, ce n'est que le prolongement de ce qu'on essaie d'être dans la vie. Et quand on arrive à se trouver, à ne faire qu'un, à fusionner avec notre art, je crois que c'est la jouissance extrême. Et c'est le cas de cette EP, que j'ai voulu donc effectivement nommer première EP, volontairement, et qui est l'introduction à un premier album, qui va être très fort.
On va en parler un peu plus tard de ça. Par quel chemin tu es passé justement pour trouver cette identité, pour aboutir à ce projet?
J'ai eu plusieurs étapes. Moi, ça fait très longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé par le piano, je suis pianiste. Parcours classique, conservatoire, assez discipliné. Je crois que je réponds bien à tout ce qui est discipliné et exigeant. C'est ce qui me challenge le plus. Et ensuite, le texte est venu comme une évidence parce que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux mots, à leurs nuances, à leur prononciation, toutes ces choses que j'adore d'ailleurs chez des artistes comme Barbara, etc. Et le chemin normal, en fait, c'est ce que j'adore, hein, mais c'est vraiment ce rapprochement en fait, avec la vie normale où on essaie d'être intègre, on essaie d'être ce que l'on a envie d'être, de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait. Et dans la musique, c'est un peu la même chose. Et on a besoin de se prendre des grosses baffes dans la gueule, je crois, pour grandir, pour apprendre, pour challenger cette flamme et qui a besoin de s'entretenir et qui a besoin de s'entraîner. Et moi, c'est ce que j'adore faire, en fait. Je crois que là où je me sens le mieux, c'est quand j'ai des énormes échecs, parce que c'est là que j'ai besoin de réagir, c'est là que je me remets en question constamment, constamment. Et petit à petit, on avance et on arrive là où on a envie d'être.
Il y a des échecs qui t'ont marqué parce que t'as parlé de baffe dans la gueule, c'est assez violent.
J'en ai tous les jours. Franchement, j'en ai tous les jours. Et c'est ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que, en fait, tu te prends, je sais pas, sur un mois, tu te prends 30 déceptions, et le 31e jour, pardon, t'as le message qui te fait plaisir, t'as la réussite, t'as la victoire. Et elle a une saveur, mais tellement extrême, que c'est une drogue en fait. C'est complètement addictif.
C'est curieux de dire, bon, j'ai des échecs tous les jours, mais c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ça...
C'est en fait, quand on vit avec une urgence, moi je sais que c'est ce qui m'anime dans la musique, c'est pas un choix, c'est comme ça, y a pas de, je l'ai dans la peau, je pense qu'à ça tous les jours, c'est ma priorité au-delà de tout, parce que c'est vital, parce que sinon je meurs, mais très sincèrement. Et en fait, quand on ressent ça, quand on a cette urgence en soi, il n'y a pas d'autre issue, quoi. En fait, les échecs quotidiens, c'est toujours cette frustration immense de ne pas être là où tu as envie d'être, ou ce truc d'être toujours dans l'après. Moi, j'ai beaucoup de mal à profiter du présent. Souvent, tu sais, même quand on fait un concert ou quelque chose comme ça, on me dit, mais t'es bien là? Et en fait, non, c'est fini. Moi, j'ai fait le concert, je suis passé à autre chose. Je pense déjà au prochain, je m'en fous de tout le reste. Et c'est terrible, cette dynamique de toujours vouloir l'étape d'après.
Je comprends mieux pourquoi tu m'as dit que tu voulais arrêter le temps.
Exactement. Je crois que ça me calmerait un petit peu.
Alors, ironiquement, Intro se termine par Outro.
Ouais.
Qui est une composition pour piano. Ça me fait penser à Entrée, l'interlude dans ton projet Corps Sauvage. Pourquoi c'est important pour toi d'intégrer ces respirations dans tes musiques ?
Parce que c'est intrinsèquement là d'où je viens, c'est-à-dire le piano, comme je t'ai dit, ce parcours classique très discipliné qui est en fait mon premier amour, je crois que j'ai deux amours, c'est le piano et mon public. Et le piano, j'en fais tous les jours, ça fait partie de moi, c'est là que je me défoule, c'est là que je respire, c'est là que je rêve, c'est un peu l'endroit de tout ce que je suis. Et avoir le luxe de sortir ça sans parole, c'est encore plus fort et c'est encore autre chose. Parce que tu sais, avec les mots, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses que tu peux pas dire avec les mots. On parle de l'indicible et l'ineffable, et j'adore en parler parce que c'est là où la musique classique, pour moi, touche quelque chose que rien d'autre ne peut toucher. Tu la ressens en fait, c'est vibratoire, c'est émotionnel, enfin, il y a un truc qui se passe.
T'as des références en musique classique ?
Ouais, moi je suis une amoureuse de Tchaïkovski. Beaucoup de concertos que j'ai énormément écoutés, le concerto numéro 1 que je conseille énormément. Moi j'adore quand il est interprété par Katia Bounatichvili. Je sais pas si tu connais, c'est une pianiste géorgienne qui est... moi j'adore parce qu'elle, si tu veux, elle arrive avec sa robe à paillettes et ses immenses talons, elle se met sur son piano à queue et elle te fait des trucs que seuls les immenses arrivent à faire. Elle a une toute petite main et c'est des écarts d'octaves que seul un mec, tu sais, avec une immense main peut faire. Et j'adore ces contrastes en fait.
On passe par toutes les émotions à travers ton EP. Hein. Il s'ouvre avec « Comme des loups » en feat avec Zaoui. Et tu dis que l'amour, c'est pour les fous.
Ouais, je crois. Je crois qu'il faut être un peu fou pour aimer ça.
Inconscient.
Faut aimer le danger, faut aimer l'insécurité, faut aimer... En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans l'amour. L'amour plat, on n'en veut pas. Et pourtant, c'est sûrement le meilleur, mais ça se travaille, ça s'entretient. Moi, j'aime bien ce qu'on retient, ce qui est imprévu, ce qui est piquant.
Ce qui te fait un peu peur ?
Non. Non. Moi, généralement, tout ce qui fait peur, j'en ai pas peur, entre guillemets.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'aime bien tout ce qui est... Alors attention, je ne parle pas de danger physique parce que je suis la plus angoissée au monde. Je parle bien de tout ce qui est plutôt mental, tout ce qui est jouer un peu avec... titiller, parce que comme... En fait, pour moi, c'est tout ce qui est échec, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est déception, tout ce qui est la vie, en fait. J'apprécie autant ces moments que les moments de joie.
L'amour est abordé de plusieurs façons dans ce projet. Et je trouve qu'il y a un titre qui sort du lot, il est pile au milieu, c'est « Brûler la scène ». Tu dis que c'est plus qu'une chanson, c'est une promesse, mais une promesse de quoi ?
C'est une promesse de ne pas oublier pourquoi je fais ça. Et je crois que le maître mot de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, c'est l'urgence. Comme je te disais, parce que je suis terrifiée, je suis vraiment quelqu'un de très angoissé et assez dominé par ces angoisses. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est la musique, c'est ce projet, c'est y mettre tout ce que j'ai. Et brûler la scène, c'est un peu le parfait résumé de ce que je ressens.
Il y a des paroles quand même qui sont assez dures, on parle même d'une obsession de la mort.
Ouais, ah ouais, c'est terrible. Mais j'ai l'impression qu'on l'a tous, de manière assez évidente, et que chacun essaie d'en faire quelque chose. Alors il y a ceux qui défient la mort en faisant des sports d'extrême, voilà ce genre de choses, et puis il y a ceux qui essaient de vivre avec, je crois que j'en fais partie. Parce que moi, je suis pas une grande... Encore une fois, je suis pas une grande extrême dans tout ce qui est physique, sensations fortes, tout ça. Mais c'est sur scène que j'arrive à oublier à quel point la vie est éphémère et peut faire peur.
Tu m'as parlé à plusieurs reprises d'urgence. Hein.
Ouais.
C'est un mot qui est revenu très régulièrement. Le fait d'avoir des difficultés à vivre l'instant présent. Il n'y a pas justement ce risque parfois de s'auto-saboter un peu, de saboter des projets, des plans amoureux, de faire en sorte d'entrer qu'ils ne marchent pas. Justement pour anticiper une déception.
Si, ça peut. Je crois que je suis pas ce style-là. Moi, je suis assez 1 plus 1 égale 2. Hein. Je suis pas trop une torturée, j'avoue. Moi, ça va tout droit, en fait. C'est vraiment... ma vie, elle est très simple et dans ma tête, c'est très simple. Disons que moi, j'ai tendance à penser que la différence se fait sur les moments de mal-être. C'est là qu'il faut choper le moment. Un moment de bonheur, c'est là qu'on récolte. Par exemple, les concerts, etc. Moi, je récolte mes années de travail, c'est que du bonheur. Mais une déception, c'est là qu'il faut du travail. C'est là qu'il faut le choper. Et que le lendemain soit encore plus fort que ça et en faire quelque chose. En fait, c'est des opportunités de dingue, les déceptions.
Est-ce que ça ne te permettrait pas aussi de vivre davantage l'instant présent si tu te permettais de choper le bonheur aussi, pour reprendre tes mots ?
Sûrement. Bah sûrement, mais bon, ça après, on est ce qu'on est, on fait un peu comme on peut avec notre caractère. Je ne sais pas d'où je tiens ça, mais ouais, c'est sûr.
C'est quelque chose sur laquelle tu travailles ou tu as accepté d'être comme ça, de vivre dans l'urgence, de vivre dans l'après
Non, j'ai accepté d'être comme ça parce qu'en fait, ça m'insupporte d'être autre chose. Souvent, c'est vrai, on me conseillait autour de moi, non, Manon, il faut que tu profites, là, prends le temps, tu viens d'avoir une super nouvelle, va boire un café. J'ai pas du tout envie, je m'en fous, en fait. Next.
T'es assez incandescente, je trouve.
C'est-à-dire ?
On dirait qu'il y a un incendie permanent avec
toi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est pas facile de me supporter au quotidien, il faut des gens costauds, parce que c'est vrai, j'ai une sorte de... Je suis inépuisable, moi, ça m'entretient. Ça m'entretient.
Vernis rouge, il est temps d'explorer ton passé. Tu es né à Beyrouth, et ton enfance est ébranlée par le conflit israélo-libanais de 2006, une guerre qui contraint tes parents à tout quitter pour venir en France. Et quand je dis tout quitter, ce n'est pas qu'au sens figuré, tu as dû tout laisser sur place en quelques instants, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Le petit-déj chaud sur la table, le chat à la maison, toute la maison, enfin absolument tout. Ça a été un retournement terrible.
T'avais 6 ans ?
Ouais, c'est ça. 6-7 ans, quelque chose du style. C'était en 2006.
2006, donc
6, 7,
8 ans.
8, j'avais 8
ouais,
ans.
Ouais, 7-8 ans, ouais. Quand tu dis que voilà, tout s'arrête du jour au lendemain, littéralement, j'imagine qu'on ne le voit pas venir, encore moins quand on a 8 ans. Tu voyais pas des discussions avec tes parents, même des choses qui pouvaient passer à la
télé?
Non,
pas du tout. Et c'est un peu, en même temps, quelque chose au Liban qui est assez récurrent. C'est des pays qui font, c'est sûrement aussi ce qui font leur beauté, mais c'est triste de dire ça, mais c'est que tout est... Il y a une sorte de danger permanent qui fait qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. C'est ce qui fait aussi qu'on apprécie les choses. C'est toujours cette dualité de façon dans la vie. Ça a été un drame. Ça a été un drame, mais comme tous les drames, après coup, c'est sûrement une des plus belles choses aussi qui m'est arrivée, parce que ça a engendré... beaucoup de force, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour pour ce pays, des liens forts dans ma famille, tout ce genre de choses.
Et malheureusement, en plus, c'est encore d'actualité, hein,
ouais,
parce qu'il y a toujours la guerre dans cette région. Mais je sais que tu y retournes très régulièrement.
Ouais, j'y vais tous les étés, parce qu'il y a toute la famille du côté de mon papa, dont je suis très proche. Et les Libanais, c'est très ça, tu sais, c'est une diaspora, on est partout. Et tous les étés, on se rejoint tous des quatre coins du monde, au Liban, pour profiter ensemble et se faire notre dose de famille.
Alors, t'arrives en France, 8 ans.
Ouais.
Quel est le premier sentiment qui te passe par la tête ? C'est quoi la première chose que tu as vue de la France ?
Alors, ma maman est française, donc j'avais... faut savoir que j'ai vécu un an en France entre ça. Je suis venue juste pour AZF, il y a une usine qui a explosé.
Oui, à Toulouse.
Oui, voilà.
Bien sûr, oui.
Mais moi, j'étais là juste pour ça et après, je suis repartie.
Comment ça, t'étais là juste pour ça ?
En fait, on habitait à Toulouse l'année où il y a eu l'explosion. Mais on est très chanceux pour les trucs comme ça, et après on est reparti au Liban, bon bref. Mais les vitres avaient explosé, on avait eu peur, j'ai deux frères, ils étaient près de la vitre, enfin, on s'en fout, c'est passé, mais bon voilà, c'était toujours des trucs à la con. Donc j'ai vécu en France, et on est très élevé à la française tout de même. On a la manière de penser à la française, l'utilisation des mots à la française, tous ces trucs-là. Et c'est plutôt tout ce qui est famille, tout ce qui est bonne bouffe, où là on est vraiment sur le côté généreux méditerranéen, quoi.
Donc l'intégration n'a pas été
non, pas
difficile
du tout.
Quoi,
non, et on est un peu des caméléons. Ça vient du côté sûrement international, mais on est à l'aise partout, on est bien partout.
Oui, t'arrives à t'adapter.
Ouais, 100%.
Il faut qu'on explique l'origine de ton nom de scène, Vernis Rouge. Ce nom te permet de te réapproprier une féminité que t'avais du mal à assumer. Bah, pourquoi c'était aussi dur ?
C'était dur parce que j'avais deux grands frères, que je voulais leur plaire, et qu'en fait les poupées, j'en avais strictement rien à faire. Moi, il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était... Tous les dimanches, on avait le droit de se bagarrer. Et j'avais trop hâte de ce moment, parce que chacun choisissait une arme. Et on allait dans la chambre, on avait 30 minutes, on pouvait se taper dessus. Et moi, c'était mes moments préférés, en fait. Et donc, évidemment, c'était plutôt ce style de femme que j'étais. Enfin, ce style de petite fille. Et à l'inverse, mes cousines libanaises, parce qu'au Liban, la féminité, c'est très important. Donc, quand t'as un mariage, tu mets une robe. Quand t'as un rendez-vous en famille, tu mets une robe. Tu te maquilles, tu vas faire tes cheveux. Et moi, c'est toute l'angoisse du monde possible réunie, quoi. Donc c'était toujours pourquoi tu mets pas de robe. Et quand t'es petite, ça te rend triste, tu vois, souvent tu pleures, ça te rend pas bien, tout ça. Et j'avais envie d'être plus féminine, parce qu'après on peut être comme on veut, tu vois ce que je veux dire, chacun a sa féminité, la développe comme il le souhaite. Mais moi j'ai toujours été très attirée par des femmes comme Carla Bruni, par Catherine Deneuve, ce style de féminité. Et donc j'ai toujours voulu tendre vers ça, et j'y arrivais pas parce que j'avais aucune connaissance de ça. Moi je prenais une batte de baseball et je tapais sur mes frères. Et c'est à travers la musique où j'ai osé parler d'amour, j'ai osé être plus douce, plus sensuelle. J'ai un peu rencontré tout ça plus facilement. Et petit à petit, j'ai fusionné.
D'où Vernis Rouge.
D'où Vernis Rouge.
Toi,
un petit clin d'œil.
Représenter le mieux cette féminité.
Ouais.
Alors on en a plus ou moins parlé, hein, précédemment, mais comment la musique vient à toi ?
La musique est venue par le piano, donc tout d'abord. Par l'amour du piano, l'amour du classique, aussi l'amour des textes avec Barbara, Edith Piaf, Dalida, Brassens, Beko, enfin voilà, à peu près toute cette famille d'artistes-là. Et en grandissant, j'ai été pas mal influencée par un côté plus rock, comme Blondie, les Strokes, Tudor Cinema Club, etc. Et en fait, c'est ça que j'avais envie d'être sur scène. Mais j'ai toujours su que je serais chanteuse, quoi. Ça, j'ai jamais eu aucun doute sur ça.
Parce que 5 ans, c'est ça, que tu as commencé la musique.
Tout à fait, le piano.
Le piano. Généralement, quand on commence le piano à 5 ans, c'est parce que papa-maman nous y a mis, pas toi. Dans ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que ça a été le cas.
Alors, je ne saurais même pas te dire, ça date trop. Et moi, j'ai une mémoire très sélective, c'est que j'oublie tout. Donc, je ne saurais pas te dire. Mais je sais que, comme toutes les gosses, en fait, quand tu fais du piano, il y a un moment, t'as envie d'arrêter parce que c'est chiant. Tu fais du solfège, tu te sens pas concerné. Tu sais, c'est très ingrat, les instruments. C'est-à-dire qu'au début, tu apprends ce qu'il y a à faire, mais t'es pas libre parce que tu vas sur ton piano, tu fais que répéter des choses, etc. C'est le rôle d'un parent, et c'est vrai que moi, mes parents ont eu ce rôle-là, enfin ma mère surtout, quand j'ai voulu arrêter le piano. Bon, après, c'est comment je fonctionne, mais elle m'a dit « T'as raison Manon, tu sais quoi, t'as des copines qui sont bien plus courageuses que toi, t'as qu'à arrêter. Ben, » c'est comment il faut me parler, moi on me dit ça, c'est terrible, tu vas voir ma copine ce que je vais lui faire. Donc c'est l'inverse, j'ai continué encore plus fort, et après quand on passe le déclic d'être libre sur un instrument, c'est la jouissance extrême.
À partir de quand tu as eu ce déclic ?
Un peu avant la prépa. J'ai fait une classe préparatoire, donc je crois que c'était en... On est où avant la prépa ? Je suis perdue.
On est en terminale.
Oui, on est en terminale. Ouais. C'était au lycée.
Donc ça fait une douzaine d'années quoi, avant d'avoir le déclic.
Ben ouais, ça met du temps. Ça met du temps, et moi j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à composer au piano, surtout j'avoue. Quand j'avais cette liberté de me dire, en fait, t'en fous de jouer ce que jouent les autres, tu peux faire ce que t'as envie d'entendre. C'est fou quand on y pense. C'est-à-dire ce que tu as envie d'entendre, tu peux le jouer, tu peux créer quelque chose, je trouvais ça dingue. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic.
C'est dingue quand même que tu aies réussi à faire du piano autant de temps. Toi qui pourtant vis dans l'urgence, qui passe rapidement à autre chose, etc. Là pourtant la musique demande une énorme discipline et une énorme patience.
Ouais, mais celle-là je l'ai. Je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie. Je suis entourée toujours des mêmes personnes, je suis très 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 sélective, je suis très solitaire, je suis très sauvage. Et quand j'aime quelque chose, c'est pour la vie.
Alors, le grand public a pu t'apercevoir l'année dernière dans The Voice, et t'as été remarqué par ta reprise très originale de Bande Organisée, du collectif très organisé. T'as aussi repris Jombe de Bosch, ODD de PNL, Doudou d'Aya Nakamura, des titres qui appartiennent au registre urbain. Tu en changes complètement le style. Alors, comment t'es venue l'idée? Et qu'est-ce que t'aimes autant dans le fait de reprendre des morceaux de ce registre-là?
Les reprises, je trouve ça complètement inintéressant. Parce que rien n'est mieux que ce qu'écrit le mec en question. Donc à partir de ce principe, je me suis dit, qu'est-ce que je peux reprendre qui n'a aucun sens? Je me suis dit, bon, a priori du rap parce que j'en écoute pas. Et effectivement, ça a complètement du sens, parce que ce que j'adore dans le rap, c'est l'insolence, c'est la provocation, c'est les punchlines, c'est les mots piquants, qui en fait complètement ce que je suis dans la vie, une sorte d'ironie, humour noir, l'humour, tout ça. Donc c'est ça que j'ai adoré.
C'est fou quand tu dis... Tu trouves les reprises d'une utilité extrême. En ce moment, c'est un peu la mode en musique, hein, quand on écoute ce qui passe à la radio, sur les classements des plateformes et tout ça. Quel est ton regard là-dessus, sur la musique?
Parce que s'il y a bien une utilité aux reprises, c'est faire adhérer à un univers. Parce qu'il y a beaucoup de propositions sur les chanteurs qui écrivent. Même moi, je sais qu'on peut s'en foutre en fait, de ce que j'écris ou compose. Et ce qui va permettre une sorte d'accroche pour un public qui ne connaît pas, c'est de voir les goûts, l'interprétation, et c'est à travers ça qu'on se dit « Ah, mais c'est intéressant comment elle reprend cette chanson que j'adore, donc déjà elle adore cet artiste, ou ah, ça m'intéresse de voir ce qu'elle fait. » Souvent ça se passe comme ça.
Il y a aussi un côté très nostalgique. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui te parle, la nostalgie, de ce que tu m'as raconté depuis le début de l'interview. Après je me trompe peut-être.
Non, mais... c'est très vrai. Par exemple, tu sais, il y a souvent ma mère qui me dit « Ah, oh, ça te dit qu'on regarde les vidéos, elle a filmé toute notre enfance. » Incapable de faire ça. J'ai les larmes qui montent,
Pourquoi t'as les larmes qui montent?
Parce que la nostalgie, ça me fait beaucoup de mal. Enfin, le penser à avant, penser à ce que j'ai perdu, penser à ce qui est terminé, ce qui est révolu, c'est très difficile pour moi.
Alors justement, j'avais une question là qui allait suivre. S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que t'aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui?
Waouh, ma grand-mère. C'est la seule personne que j'ai perdue pour l'instant. C'est assez récent. Enfin, c'était il y a un an, mais je crois que c'est récent pour la vie. Et c'est dur, un deuil. C'est terriblement difficile. Je crois que j'en étais assez proche de l'idée que je pouvais m'en faire, parce que je suis très centrée sur ça. Et quand on le vit, c'est terrible, c'est un monde qui s'écroule, quoi.
Quel souvenir t'avais avec cette grand-mère?
Je crois que j'admirais profondément son expérience et sa sagesse. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait, chez nos parents, chez nos grands-parents, c'est qu'il y a une forme de sagesse et d'expérience dont on peut bénéficier tellement facilement. On gagne tellement de temps, en fait. Alors, poser des questions et tu vois ce que je veux dire? Se nourrir d'un truc que nous, on va expérimenter, mais qu'en fait, eux, ils ont déjà expérimenté 600 fois, quoi. Et on peut l'avoir avant tout le monde.
Il y avait un côté rassurant aussi?
Ouais, très rassurant.
Vernis rouge, on a fait le présent, le passé, que nous reste-t-il ?
Le futur.
Le P intro, comme son nom l'indique, précède un futur album. C'est ça ?
Tout à fait ça.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet album ?
Que je suis en train de le finaliser et qu'un premier album, c'est une première œuvre. Et c'est sûrement la chose la plus excitante que je prépare dans ma vie depuis que je suis née. Parce qu'il faut essayer d'atteindre une sincérité parfaite et en même temps quelque chose de plus grand que la sincérité. Parce qu'on est dans la musique et qu'on veut faire rêver et qu'on veut voir les choses en grand, qu'on veut un peu se transcender.
On peut faire rêver en étant strictement sincère ?
Je pense, mais je pense qu'il faut exagérer certaines choses. Mais les exagérer sincèrement. Exagérer des choses qu'on a envie d'exagérer. Une certaine extravagance, une certaine insolence, ça dépend chez chaque artiste. Mais il faut voir... Tu sais, c'est un peu comme quand on te dit, quand tu fais ton maquillage, bon bah si tu vas à une soirée, t'y vas tranquille. Par contre, quand t'es sur scène, faut y aller quatre fois plus, quoi. Parce que sur scène, on voit pas aussi bien. Faut exagérer. Et c'est un peu la même chose à tous les niveaux.
Très bien, mettre en avant certains aspects plus que d'autres.
Exactement.
En fait. Mais ça doit être un défi parfois, c'est peut-être même une équation impossible.
Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est très excitant. Parce que tout ce qui est difficile est assez excitant. Et c'est challengeant. Parce qu'on sent aussi qu'on s'améliore, on sent qu'on se rapproche, on sent qu'on se plaît, on sent qu'il y a plein de choses qui entrent en jeu. On sent que ça parle à un public. Et je crois que c'est quand ça parle à un public qu'on atteint l'honnêteté.
Mais d'ailleurs. La question que je me pose, c'est pourquoi vouloir cette sincérité absolue à tout prix ?
Déjà pour son bonheur à soi, parce que je pense qu'on est très malheureux dans le mensonge, dans la figuration, dans la superficialité. Je pense que sincèrement, son bonheur se trouve quand on arrive à être soi, aux yeux de soi-même et aux yeux des autres. Et que je pense que le succès d'un artiste se fait quand on ressent cette sincérité. Pour moi, c'est ça les titres qui marchent le plus. Pour moi, c'est ça... Moi, je sais que les titres que j'aime le plus au monde, en fait, je sens que j'ai accès aux tripes profondes de l'artiste. Et c'est ça qui me bouleverse.
Dans tes musiques, quel sujet que tu n'as pas encore abordé souhaiterais-tu traiter ?
J'ai pas de souhait. J'ai plus des pulsions ou des choses qui m'animent dont d'un coup j'ai envie de parler. Et ça peut être peut-être que dans une heure, en fait, je vais supprimer tous les morceaux et en fait en refaire plein, tu vois. Je me laisse vraiment... dirigé par ce que je suis, par ce que je ressens et par ce que j'ai envie de vivre avec le public. Et ça c'est évolutif, c'est ce qui est beau.
De façon générale, est-ce que tu as répondu finalement hein, au cours de l'interview, mais la question est là. Hein, est-ce que le futur est une notion à laquelle tu penses souvent ? Bah, j'ai compris que oui.
Ouais, beaucoup.
Tous les jours.
Beaucoup, mais non, pas trop, parce que le futur aussi, ça me fait peur. C'est ça qui est compliqué, en fait. Je sais même pas où je me situe, tu vois, dans le passé, présent, futur. Je crois que je suis nulle part. Parce qu'en fait, le futur, c'est... Moi, quand tu me parles de futur... Il n'y a qu'une chose à laquelle je pense, c'est la perte des gens que j'aime, tu vois. Rien d'autre. Et en fait, je suis incapable de penser à ça.
Donc, ah oui, c'est un peu compliqué, parce que si le passé et la nostalgie te font monter les larmes, si t'as du mal à vivre l'instant présent et que le futur t'angoisse...
Ouais, l'équation n'est pas bonne. Mais ouais, je sais. Mais c'est bien le problème de mon existence.
Tu penses trouver la clé un jour ?
Non, je pense pas. On me demande souvent si c'est, la musique c'est la clé, mais en fait pas du tout, ça résout rien malheureusement. Parce que quand je dors ça va pas, quand je me réveille ça va pas, enfin tu vois ce que je veux dire, j'ai une... En fait l'existence ne va pas.
C'est un poids.
Ouais c'est un poids, mais c'est un poids qui est délicieux. Mais bon c'est des sujets à la con, mais enfin voilà, la vie n'est que ça quoi.
Pas nécessairement. Hein.
Non bien sûr, mais c'est, en fait c'est tellement pas à la con que ça devient à la con. Tu vois ce que je veux dire ?
J'ai l'impression que tu abordes des sujets assez lourds avec énormément de détachement. Je ne sais pas si c'est par protection ou par usure, mais...
Ouais, je crois que c'est par usure.
Ouais, parce que tu m'as parlé d'AZF, tu as dit que c'était un truc à la con aussi. Hein.
Non, parce que, disons que je résume, parce que tu en fais ce que tu veux de ces événements-là. Mais évidemment, quand tu les vis, ils sont terribles. Quand ça a des incidences horribles, c'est horrible. C'est comme tout, tu vois. Tu choisis ce que tu en fais.
Mais donc, c'est un poids, c'est un problème existentiel.
Ouais.
Est-ce que... Dans une certaine mesure, on peut dire que tu n'as pas encore exactement trouvé ton rôle, si tant est qu'il y en ait un.
Si tant est qu'il y en ait un. Je crois que c'est la phrase que je retiendrai. Et qui est bien mon problème d'ailleurs. C'est qu'il n'y en a pas, bordel.
On arrive à la dernière partie de l'émission. Vernis rouge, je demande à toutes les personnes présentes de quitter ce studio. Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant une minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Vernis rouge.
Et je parle...
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule.
En fait, c'est génial parce que je m'y attendais pas du tout. Et souvent, on nous dit à la fin d'une interview, est-ce que t'as un sujet à aborder, est-ce que t'aimerais parler de quelque chose. Et en fait, on sait jamais de quoi parler parce que ça se prépare pas. Et je crois qu'il y a rien de plus beau que cette improvisation qu'on me fait vivre. Et en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que ça fait du bien les interviews où on prend le temps d'écouter, on prend le temps de parler, où c'est pas coupé. Et j'en parle souvent, que ça manque. On est dans un monde où tout va vite, où tout se consomme vite, un peu comme les morceaux. Et prendre le temps d'écouter, prendre le temps de parler, d'avoir les silences, parce qu'en fait un silence en dit beaucoup plus que des mots, je trouve. Ben, c'est merveilleux et c'est rare et putain ça fait du bien. Alors je vous invite à écouter mon premier EP intro qui est un peu ça finalement. Il y a 6 titres, il faut prendre le temps de les écouter en attendant l'album qui sort à la rentrée, ça va être dingue. Voilà. C'est ça la beauté, prendre le temps.